la conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, quand la physique broie du noir. La physique d'aujourd'hui se donne avec délectation des airs de séries noires. Corps noir, trou noir, matière noire, énergie noire. Pourquoi ne voit-elle pas la vie en rose? D'où provient cette sienne manie d'accoler l'adjectif noir à des mots ordinaires? En quoi cela modifie-t-il leur sens? Dans le langage courant, le mot noir sert à dire tantôt l'obscur, le mystérieux, l'effrayant, tantôt le caché, l'inconnu ou l'opaque. Mais que veut signifier le physicien lorsqu'il choisit de dire d'un corps, d'un milieu, d'un objet ou d'une substance qu'ils sont noirs? À quelle propriété la noirceur se réfère-t-elle alors? À quel symbole renvoie-t-elle? L'entrée en matière du noir en physique a commencé avec le paradoxe dit de la nuit noire qui a agacé les savants pendant des siècles. On peut d'abord se demander en quoi le fait que la nuit soit noire peut bien constituer un paradoxe. Nuit noire est plutôt un pléonasme et nuit blanche plutôt un oxymore. Depuis la nuit des temps, en effet, on sait que le soir, après le coucher du soleil, le fond du ciel devient de plus en plus sombre entre les étoiles qui scintillent. Il devient de plus en plus clair qu'il fait nuit. N'est-ce pas tout ce qu'il y a de plus normal? En fait, non. Les suppositions les plus simples conduisent à la conclusion que le ciel devrait être brillant 24 heures sur 24. Supposons en effet que notre univers est infini et qu'il est uniformément peuplé d'étoiles. Lorsqu'il fait nuit, quelle que soit la direction vers laquelle nous portons notre regard, celui-ci finit par aboutir sur la surface d'une étoile plus ou moins lointaine. Si nous avions une très bonne vue, le ciel devrait donc nous apparaître comme pavé de soleil et donc parfaitement clair en permanence. Ce paradoxe a suscité de très nombreuses réflexions depuis 4 siècles, mais il n'a pu être résolu que dans le cadre de la physique contemporaine grâce à la combinaison de 3 ingrédients. 1. La lumière des astres prend son temps pour nous parvenir. 2. Les étoiles n'ont pas toujours été là et elles ne sont pas immortelles. 3. L'univers a un tempérament notoirement expansif, en ce sens que la distance entre ces points d'espace ne cesse d'augmenter. Mais en vérité, il n'est pas tout à fait vrai que la nuit est noire. De jour comme de nuit, le ciel est baigné de rayonnements qui ne s'éteignent jamais, à commencer par le rayonnement fossile, aussi appelé le fond diffus cosmologique, qui fut libéré 380 000 ans après le Big Bang. Si nos yeux étaient sensibles aux fréquences les plus basses, ils verraient le ciel nocturne traversé de ces lumières. En fait, la nuit est brillante, mais nos yeux ne le constatent pas. C'est notre regard qui assombrit la nuit par ses limitations. C'est ici qu'un peu de latin peut nous servir. En latin, il y a 2 mots pour désigner le noir. Ater qui désigne le noir mat, le noir éteint, et niger qui désigne le noir brillant. Ater est devenu un mot négatif, qui a donné atroce et atrabilaire. Niger est au contraire un mot positif, il désigne le noir qui rayonne, le noir lumineux. C'est son inverse qui est donc négatif, comme on le voit avec le verbe dénigrer, qui signifie nier l'éclat d'un fait, d'un argument ou d'une personne. Compte tenu de ce que je viens de dire à propos du ciel nocturne, on pourrait dire que nos yeux dénigrent la nuit, puisqu'ils lui retirent son éclat. Mais grâce aux astrophysiciens qui voient mieux que nos yeux, nous savons désormais que le bon mot pour dire le noir de la nuit, c'est niger, le noir brillant, et non pas ater, le noir mat. En somme, les astrophysiciens ont renigré la nuit au sens où ils l'ont dédénigré. On voit par cet exemple que l'association de l'adjectif noir et du mot nuit diffracte l'idée même de noirceur. La question est donc, en va-t-il de même lorsqu'on accole ce mot noir au concept de matière, d'énergie, de trou, de corps? C'est ce que je voudrais discuter avec nos 2 invités. D'abord, David Elbaz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien et vous publiez ces jours-ci un livre chez Odile Jacob qui s'intitule « À la recherche de l'univers invisible, matière noire, énergie noire et trou noir ».
Tout à fait.
On est donc dans le sujet. Le second invité est Vincent Bonton, bonjour.
Bonjour Étienne.
Vous êtes philosophe et vous publiez, vous aussi, avec la collaboration de Roland Lehoucq, que nos auditeurs connaissent bien puisqu'il est venu il y a quelques temps nous expliquer comment on avait su que la Terre était ronde, il est astrophysicien, et vous publiez avec lui, Vincent Montand, un livre aux éditions des Belles Lettres qui s'intitule « Les idées noires de la physique ».
C'est ça.
Et donc, vous avez écrit deux livres sur le même sujet, finalement. Au même moment, est-ce que c'est une coïncidence ou bien est-ce que ce sujet est vraiment dans l'air du temps au point qu'il impose qu'on se mette à y consacrer de nombreux livres,
hein? Je pense que c'est vraiment un sujet qui
David Elbaz.
Oui, je pense que c'est un sujet qui fait débat aujourd'hui dans le monde scientifique. On se rend compte pour la première fois qu'on a l'équivalent de signe avant-coureur d'une révolution scientifique qui est en train de se faire. Et donc on s'interroge à la fois sur la terminologie du problème, sur la véracité du problème. Est-ce qu'on est face à quelque chose de réel ou d'une illusion? Ou est-ce qu'on est véritablement face à une révolution scientifique en cours? Et quelle sera-t-elle? La question que je pose dans ce livre, justement, c'est de savoir... Est-ce qu'on peut prévoir maintenant que pourrait être le monde de demain? Est-ce que ça sera un monde avec 20 dimensions? Peut-être à l'inverse avec 2 dimensions? Est-ce qu'on pourra puiser dans d'autres dimensions des ressources nouvelles? Est-ce que la gravité à laquelle on a longtemps cru comme étant la source même de la physique moderne, elle est à la base de la physique moderne, doit être mise en question? Ou bien doit-on faire appel à de nouvelles composantes sombres? Toutes ces questions-là, on se les pose dans ces livres, mais elles se sont inscrite dans tous les dialogues qu'ont les scientifiques entre eux aujourd'hui, dans toutes les conférences. On est confronté à une question qui est présente dans les esprits de tout le monde, qui est de savoir pourquoi, depuis tant d'années, aujourd'hui, on n'arrive pas à répondre à ces questions qui touchent toutes à une seule et même problématique, celle de la gravité.
Alors, Vincent Montand, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que votre livre, donc Les idées noires de la physique, est un livre bachelardien? Vous l'avez écrit avec Roland Lehoucq. Lui, qui est astrophysicien, parle du trou noir, de la nuit noire, de la matière noire, de l'énergie noire en tant que physicien. Et ensuite, vous complétez par une discussion plutôt philosophique sur le sens qu'il faut accorder pour ce cas-là au mot noir. Et donc Bachelard, qui s'était intéressé d'un côté à la rationalité scientifique, mais aussi à l'imaginaire poétique qu'il suscite ou qu'il engendre, vous êtes donc mis à deux pour faire du Bachelard.
Oui, il faut au moins être deux pour égaler Bachelard. Le point de départ était un peu le même que celui de David, c'est-à-dire j'avais donné à l'invitation de Michel Cassé une conférence sur l'énergie noire, et Roland, qui était dans la salle, était venu me trouver en me disant « c'est très intéressant ce que tu fais, ce qui est intéressant c'est que tu parles pas uniquement de l'épistémologie de ce terme, mais tu essayes de voir, au-delà de la dénotation de ce que l'adjectif noir veut dire dans le terme énergie noire, tu essayes de parler aussi des connotations, c'est-à-dire de toutes les associations d'images qui peuvent être suggérées par ce terme. » J'avais dit « oui, je fais ça parce que je m'inspire d'un livre de Gaston Bachelard qui s'appelait « La psychanalyse du feu », qui était un livre consacré à tous les obstacles épistémologiques, toutes les images qui peuplent l'esprit à l'évocation du feu, mais qui n'ont pas un rapport direct avec les théories de la combustion ou de la propagation de la chaleur. Et une fois que je lui avais dit ça, il m'a dit « ce qu'on devrait faire ensemble, c'est travailler sur tous les termes scientifiques qui, comme ça, ont accolé l'adjectif noir à un terme. Donc le problème du ciel noir, le corps noir, le trou noir, évidemment, la matière noire et l'énergie noire. On en a écarté quelques-uns. On a écarté, par exemple, la lumière noire, car il nous a semblé que c'était pas un fait scientifique aussi important, et puis que c'était pas, en fait, pas de la même famille. Donc on n'a pas fait feu de tout bois, mais on a gardé ces termes-là. Et ensuite, on a fait ce dialogue où, en travaillant ensemble, mais bon, c'est des chapitres où Roland tient la plume et écrit ce qu'on pourrait dire l'épistémologie historique, comment le terme est apparu, le concept s'est formé, la sédimentation du sens à chaque fois du terme matière noire. Donc il y a un aspect un peu intrigue, enquête policière, rapport historique sur ce terme, et puis ça présente les enjeux actuels. Et de l'autre côté, un chapitre qui lui répond, cette fois-ci c'est moi qui tiens la plume, mais une fois de plus, là aussi sous le regard bienveillant et critique de Roland, qui était tourné vers ce que Bachelard appelait la psychanalyse de l'imaginaire, et donc cette fois-ci qui essaye d'utiliser une sorte de rêverie, mais une rêverie qui donc obéirait quand même à certaines contraintes savantes, c'est-à-dire vraiment de voir quelles sont les associations d'images dans notre culture, dans la poésie, dans la peinture, dans la philosophie, enfin voilà, dans toutes les autres disciplines littéraires et artistiques qui font sens par rapport quand même au concept scientifique, mais qui n'obéissent pas à la même logique scientifique, entendons-nous bien. Et donc en ayant ces deux regards, il nous semblait qu'on disait en plus quelque chose d'intéressant sur l'état de la science, et peut-être que ça rejoint certaines des préoccupations de David, dans la mesure où on voit que les imaginaires scientifiques sont, même s'ils sont refoulés dans le travail quand on manipule des équations, ont pour une part coloré les expressions scientifiques et peut-être d'ailleurs influencent un certain imaginaire scientifique. Et donc elles ne sont pas neutres, ces expressions.
Alors j'ai commencé par mon introduction à parler de la nuit noire, qui est d'ailleurs le sujet commun au démarrage de vos deux livres. On pourrait commencer par le début et se poser la question de savoir si le noir est une couleur ou non.
Alors ça, c'est une très bonne question qui m'a été posée à la sortie d'une conférence que j'ai donnée un jour. Quelqu'un est venu me voir et m'a très sérieusement posé cette question. En tant que scientifique, pouvez-vous me dire si le noir est une couleur ? Je lui dis, qu'est-ce que vous entendez par là ? Il m'a dit, bah oui, le noir, c'est l'absence de toute couleur. Et il me dit, d'ailleurs, le blanc est-il une couleur ? Alors je lui dis, il me dit, oui, parce que le blanc, c'est toutes les couleurs. Alors, il y avait quelqu'un qui est trépigné à côté, quand j'ai dit, bah oui, effectivement, on peut dire que c'est de couleur, l'autre lui a dit, eh bien, tu vois bien que je t'ai vendu une télé couleur.
C'est la bonne réponse. Plus sérieuse.
Donc, les couleurs, c'est une question qu'on se pose d'un point de vue très subjectif en astrophysique, puisqu'on parle de couleurs de l'invisible. Et donc, très rapidement, on est confronté à l'invisible. Et toute l'histoire de l'astrophysique, ça a été de chercher à voir au-delà de ce que l'homme peut voir. La télévision, qu'elle soit en noir et blanc ou en couleur, elle nous montre un monde qui fait rêver, comme on le disait tout à l'heure, et on peut se demander qu'est-ce qui se cache derrière ce monde. La physique cherche à voir les principes invisibles qui sont un lien entre la multiplicité des phénomènes qu'on observe. Et puis, la partie invisible de l'univers, quand on l'a découverte, nous a révélé d'autres composantes de l'univers. Des étoiles qu'on n'avait pas vues, qui rayonnent uniquement dans l'infrarouge, du milieu interstellaire, etc. Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'en explorant la totalité du spectre électromagnétique, il devait exister d'autres composantes encore que celles-ci. Alors, on a utilisé le terme de noir pour parler de ces composantes qui ne produisent pas de lumière. Donc, en ce sens, le noir ici ne serait pas une couleur. Il serait le nom qu'on donne à notre ignorance. Et pour la première fois dans l'histoire des sciences, on mesure avec une précision quasi infinie, non pas la connaissance, mais le degré de notre ignorance. C'est ça qui est véritablement nouveau.
C'est-à-dire qu'il y a des connaissances qui augmentent notre ignorance.
Tout à fait.
Qui nous font prendre conscience de notre ignorance.
Exactement de la même manière que lorsqu'on qu'on escalade une montagne et qu'à mesure que l'on monte de plus en plus haut, on a une vision qui s'étend de plus en plus loin et on peut donc bien quantifier ce qu'il nous reste à comprendre du monde. Ça ne veut pas dire qu'on n'avance pas, on avance, on voit de plus en plus loin, mais on découvre aussi à quel point le monde est plus riche que ce qu'on pense. On en arrive aujourd'hui d'ailleurs pour essayer d'expliquer ces parties invisible de l'univers, en d'autres termes plutôt obscurs, disons, à se demander si c'est véritablement les objets que l'on regarde qui nous demandent de faire appel à de nouvelles composantes, ou bien si c'est notre regard lui-même, puisque finalement quand on regarde l'univers, on ne reçoit que quelques particules de lumière, desquelles on déduit tout le reste, si c'est notre regard qui projette quelque chose.
Mais à la question posée, le noir est-il une couleur, est-ce qu'on ne peut pas répondre oui et non ? Oui, parce que si on considère la synthèse soustractive, ça veut dire qu'on peut obtenir le noir en mélangeant des pigments qui absorbent chacun une longueur d'onde. Et ainsi, on fabrique du noir. Et dans ce cas-là, le noir est une couleur. Si au contraire, on considère la synthèse additive, c'est-à-dire qu'on superpose des faisceaux lumineux monochromatiques, alors le noir est une absence de couleur.
Alors, effectivement, on peut se demander à quel point on doit accorder un sens autre que effectivement, de comprendre un peu la psychologie de l'individu qui parle ici, à la notion de noir.
En anglais, c'est-à-dire que le fait de dire qu'un corps est noir, ou qu'un trou est noir, ou qu'une matière est noire, n'a rien à voir avec l'idée que le noir serait une couleur ou pas.
Oui, ouais. C'est à peu près ça, parce que le noir, David l'a dit, je vais le redire avec mes propres mots, c'est ce qu'on ne voit pas. Hein, c'est ce qu'un physicien ne voit pas. Simplement, ce qui devient un peu technique, c'est de savoir maintenant ce que veut dire voir pour un physicien. Et voir, ça n'est pas regarder avec les yeux, ce ne sont pas des choses qui se constatent à vue d'œil, c'est utiliser des instruments. Et donc c'est ce que Bachelard appelait la phénoménotechnique. C'est-à-dire que les phénomènes apparaissent à travers des dispositifs techniques. Alors c'est évident pour toutes les sciences expérimentales où on n'étudie pas des faits, on étudie des effets qu'on produit artificiellement. Mais en fait c'est vrai aussi pour les sciences observationnelles telles que l'astrophysique, parce que depuis longtemps, les astronomes ne regardent plus l'univers uniquement avec des télescopes qui scrutent la lumière visible. Comme l'a dit David, on a étendu l'observation aux autres longueurs d'onde du rayonnement, voire à d'autres messagers, à d'autres particules que les photons. Donc le noir demeure quelque chose en fait qui n'est pas vu, mais ça transcende l'idée habituelle de couleur parce que ça a affaire à des instruments. Mais j'irais au-delà de votre oui et non en disant un, ça n'a pas de rapport, mais deux, d'un point de vue imaginaire, ça provoque une diffraction du noir, comme vous l'avez dit en introduction, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs noirs. Le noir de la nuit n'est pas celui, comme couleur imaginaire, du noir du trou noir ou du corps noir.
D'ailleurs, vous l'expliquez dans le livre, le noir de la nuit a été bleu.
D'abord, la nuit n'a pas toujours été noire, exactement. Pendant très très longtemps, la nuit a été bleue, et on le voit sur les enluminures.
Vu comme bleu.
C'est différent, c'est pire, c'est plus profond que ça, parce que les peuples anciens utilisaient un adjectif, quanos pour les Grecs, ceruleus pour les Latins, qui veut dire de la couleur du ciel nocturne, enfin, ce qui veut dire à la fois noir et bleu en même temps. Faut voir que chez les anciens.
C'est le bleu nuit.
C'est ce qui nous reste dans le bleu nuit des peintres, exactement. Et il y avait d'autres cas, par exemple, savez-vous que pour les anciens, la mer et le sang avaient la même couleur? Donc il y avait une couleur qui était une sorte de violet un peu glauque, un peu brillant, qui est la même couleur qu'on regarde la mer ou qu'on regarde le sang, parce que c'est la même teinte de brillance en fait qui compte. Et donc le noir nuit, ce noir profond qui au contraire est l'absence de lumière, était une seule et même couleur. Mais la chose est quand même très particulière pour le noir de la nuit, c'est que c'est un noir transparent. C'est-à-dire quand on regarde le ciel, ce noir c'est la distance des espaces sidéraux, et c'est le fait que la lumière pourrait le traverser. Mais justement, il n'est pas traversé. C'est là d'où vient l'énigme du ciel noir. C'est pourquoi ce noir transparent n'est-il pas piqueté de partout, dans toutes les directions, par des étoiles.
C'est-à-dire que la noirceur du ciel nocturne témoigne de la transparence de l'espace.
Exactement. Et elle témoigne aussi, c'est un terme technique qui était utilisé par Aristote, il disait, c'était le diaphane, parce que le diaphane, c'est ce milieu dans lequel doit se transmettre les couleurs, mais donc c'est un milieu qui prend la couleur de ce qu'il traverse, d'accord? Et quand il n'est traversé par rien, quand il demeure en puissance, comme dit Aristote, eh bien il dit, là règne l'obscurité. Donc ça veut dire, pourquoi le diaphane est en puissance? Pourquoi la nuit est-elle noire? Pourquoi n'y a-t-il pas des lumières partout, dans toutes les directions, qui mettent en puissance, qui transmettent ces couleurs et qui mettent en acte le diaphane? Donc ça, c'est une interrogation qui est là qui peut être formulée depuis longtemps et qui témoigne donc d'une consistance très particulière, c'est-à-dire d'un noir transparent.
Alors le poète Edgar Poe s'est intéressé au paradoxe de la nuit noire, mais il n'y a pas que lui, Rimbaud aussi dans Le bateau ivre, et vous le citez, Vincent Montand, dans votre livre écrit avec Renan Lehoucq, il y a ce vers dans ce poème qui est « J'ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies ».
Ouais.
Qu'est-ce qu'il faut comprendre là?
On a vu les aurores boréales.
France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein.
Alors le second objet de noirceur, c'est le corps noir, dont vous parlez l'un et l'autre, dans vos livres écrits sans aucune concertation, d'après ce que j'ai compris, indépendamment l'un de l'autre. Alors le corps noir, qu'est-ce qu'il y a de noir dans un corps noir? C'est un terme qui a été inventé au 19e siècle, par
Kirchhoff.
Alors comment est-ce que vous le définiriez? Est-ce que le mot noir prend un autre sens que celui de la nuit noire?
Le corps noir, c'est quelque chose qui est classique en astrophysique. Alors, faut pas s'effrayer des termes. C'est simplement un objet qui absorbe toute forme de rayonnement et qui, paradoxalement, malgré son terme, va ensuite rayonner à son tour.
En fait, il est jamais noir.
Alors, il est
jamais
noir.
Sauf quand sa température est nulle.
Exactement. Le soleil est un corps noir, paradoxalement. Alors, d'une certaine manière, on peut se rendre compte aussi par le fait que le soleil, percer le cœur du soleil, la nature interne du soleil, c'est quelque chose de très difficile. On ne peut pas voir cette source de lumière elle-même. Et là, il y a un lien direct entre le soleil et l'observation de l'univers dans son ensemble, c'est que quand on ne peut pas voir, on écoute. On regarde la surface du soleil, on la voit pulser, et les vibrations du soleil nous renseignent sur la matière même du soleil. Si je tape sur cette table, les gens vont avoir une idée de la densité de la matière qui est sur cette table, même s'ils ne la voient pas, on est à la radio. De la même manière, si je vois vibrer la surface du soleil, je vais avoir une idée de la partie qui est cachée. Donc le corps noir qu'est le soleil nous parle à travers les sons, et pourtant le son ne se propage pas dans le vide, mais à travers ses vibrations. Et bien de la même manière, nous sommes entourés tout autour de nous par une sphère qui est l'équivalente du soleil, mais à l'intérieur de laquelle on se trouve, qui n'a pas 6000 degrés comme le soleil, mais 3000 degrés, donc à peu près la même chose, et qui a rayonné de la lumière. La seule différence, c'est que cette sphère, elle date d'un lointain passé, 13,8 milliards d'années, mais de la même manière que le Soleil, elle présente les mêmes caractéristiques de vibration, de pulsation, et en regardant pulser, vibrer cette surface, en regardant les irrégularités de cette surface, on essaye de percer ce qui s'est produit avant, on essaye de connaître la nature de l'univers, et c'est comme ça qu'on a décelé, c'est une des manières avec laquelle on a décelé l'existence de la matière noire. C'est une des manières, c'est pas la première. Mais en écoutant ces éternels, ce silence éternel de l'infini, eh bien, on écoute l'univers pour voir l'invisible. Donc là, l'univers tout entier est un corps noir au même titre que le Soleil.
Alors si on en revient à la définition physique du corps noir, David Albaz, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un objet au sein duquel les interactions entre la matière et la lumière sont suffisamment nombreuses pour que s'instaure un équilibre entre l'énergie sous forme de matière et l'énergie sous forme de rayonnement?
Exactement.
Et dans ce cas-là, on peut définir une température.
Oui, parce que vous savez, si je pousse quelqu'un, il va tomber. S'il se tient debout, il va tomber. Ça, c'est mécanique. Alors, les particules, elles se poussent les unes les autres dans le soleil. Mais quand elles arrivent à la surface, elles n'ont plus rien à pousser et elles ont une énergie qui s'accumule. Donc, comment vous allez donner votre énergie si vous ne pouvez plus le faire de façon mécanique? Eh bien, vous allez la rayonner. Vous allez la donner à de nouvelles particules qui vont partir avec cette énergie. Donc le corps noir, c'est un objet qui échange de manière très efficace l'énergie de manière interne et de sorte à la diffuser de manière parfaite à travers la lumière qui rayonne. Et donc la lumière qu'on reçoit du soleil nous parle de toute cette mécanique interne du soleil.
Alors l'étude du corps noir historiquement a joué un rôle important. C'est Max Planck qui a trouvé la bonne formule, disons, la répartition des fréquences au sein d'un corps noir à une température donnée. Ça l'a amené à introduire la constante de Planck, qui est l'emblème du monde quantique. Mais lorsque vous parlez du corps noir, vous, Vincent Bontemps, en tant que deuxième facette de Bachelard, vous dites « il dévore la lumière, il se définit par ce qu'il absorbe et par son refus de se laisser voir
ben ». Oui,
qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous prêtez une intention au corps noir.
Je lui prête une activité, une activité secrète. Et de fait, dans un monde, une fois de plus, imaginaire, sur le plan de l'imaginaire, il y a quelque chose de très, très spécifique à ce noir, qui est un noir de l'absorption, puis du rayonnement. Parce qu'il y a donc une dynamique qui est celle, finalement, de s'opposer à la lumière par quelque chose qui arrive à la digérer, puis de renvoyer, de restituer quelque chose. Alors ça lance évidemment dans un imaginaire où le concept de corps noir produit des tensions énormes. Parce que dire que le soleil est un corps noir, d'un point de vue imaginaire, évidemment, on est dans une tension extrême. Donc il y a quelque chose pour l'imaginaire qui est inacceptable dans ça. Et pourtant, on peut y arriver par des voies détournées, notamment par rapport à l'expression qui fait noir comme dans un four. Parce que, de fait, l'une des approximations les plus faciles à réaliser d'un corps noir, ça n'est pas de chercher un corps qui serait de couleur noire, mais bien d'avoir une petite ouverture dans un four qui serait recouvert de suie. Et alors, cette petite ouverture nous semble beaucoup plus noire parce que la lumière qui rentre dedans est finalement absorbée et donc il n'y a rien qui, ou peu de choses qui en ressortent pour notre œil. Et donc là, on voit la chose la plus noire qu'on puisse faire. Mais là où l'expression se retourne, c'est que Jean Perrin, dans son livre Les atomes de 1913, fait observer que ce qui est encore plus proche d'un corps noir qu'un four comme ça éteint et recouvert de suie, c'est un four justement à plein régime, en état de plein de fonctionnement. Parce qu'à ce moment-là, tout est absorbé, tout est rejeté, et il est impossible dans un four qui est en train de fonctionner à plein régime de voir où se trouve le niveau d'un liquide en fusion, par exemple. On ne distingue plus rien. Et donc, il y a quelque chose où on peut voir une sorte de conversion des images. Par ailleurs, l'imaginaire est capable de créer des idées qui dépassent, des images qui dépassent les simples concepts scientifiques. C'est-à-dire, on peut finalement se faire l'image d'un rayonnement noir, d'un rayonnement qui, à l'image de la lumière, mais en inversé, dévorerait la lumière. C'est un fantasme qui habite des philosophes, des poètes, des peintres. On le retrouve dans des bandes dessinées. Et donc, j'ai aussi essayé de montrer un peu cet imaginaire d'un noir expansif, d'un noir qui était d'abord caché à l'intérieur des corps et qui digérait la lumière, et qui peut être caché, d'ailleurs, sous différentes les couleurs de surface ont peu d'importance. Le corps noir, c'est une noirceur, pour ainsi dire, imaginairement, qui appartient à la substance dans son intériorité. Et puis ensuite, c'est un noir expansif qui se répand dans toutes les directions.
Alors justement, Vincent Montand, commentant ce que les physiciens ont pensé du corps noir, vous citez l'œuvre de jeunesse de Paul Valéry,
oui.
Introduction à la méthode de Léonard de Vinci, dans lequel, si je me souviens bien, Paul Valéry explique que la conscience peut tout livrer sauf elle-même. C'est-à-dire oui. qu'elle se comporte comme un corps noir qui absorbe tout et ne rend rien.
Ah oui, c'est un texte de Valéry assez fascinant, encore plus pour quelqu'un qui a fait, qui a subi un enseignement philosophique, c'est que ça rappelle beaucoup les notions phénoménologiques. La conscience, il est difficile d'imaginer ce que pourrait être une conscience de soi, parce que la conscience est la conscience de quelque chose. Donc elle est à la fois notre moyen d'avoir conscience de cette chose, mais elle se tient dans cet écart d'être conscience de quelque chose. Donc conscience de soi, comment pourrait-elle la conscience, elle, coïncider avec elle-même, puisqu'elle est toujours dans l'écart, qu'elle est toujours intentionnalité. Et donc Valéry explore ce paradoxe et fait donc du coup de la conscience une sorte de corps noir et du rayonnement noir, un rayonnement psychique intérieur.
Paul Valéry n'a pas connu les Rolling Stones, mais je pense qu'il aurait apprécié cette chanson « Painted Black ». Vincent Montand, David Albaz, vos deux livres consacrent une part respectable aux trous noirs.
Ah oui.
Ces objets longtemps mystérieux auxquels Einstein ne croyait pas, bien que ce soit sa théorie de la relativité générale qui permette de les envisager, qui ait permis de les envisager. Alors, qu'est-ce qu'on pense aujourd'hui des trous noirs, David Albaz, quand on est astrophysicien ?
Les trous noirs sont devenus une composante nécessaire à l'explication de ce qu'on observe dans l'univers. À la fois pour expliquer la mort des étoiles, mais peut-être aussi pour expliquer la mort des galaxies auxquelles on fait référence maintenant, et peut-être même pour faire référence à la naissance et à la mort des galaxies. Alors pourquoi ? C'est assez paradoxal, parce que finalement, un peu comme dans la complémentarité yin-yang, lorsqu'on pousse le yang à son extrême, il devient yin. Lorsqu'une étoile brille de plus en plus, lorsqu'elle atteint le moment où elle explose, elle brille comme 1 milliard d'étoiles, et juste après, elle devient un trou noir. Et donc, on peut se dire que finalement... après,
c'est-à-dire un corps qui est censé ne pas émettre de lumière, parce que la courbure de l'espace-temps dans son voisinage est tellement courbée que la lumière revient.
Alors voilà, qu'est-ce que ça veut dire un trou noir ? Ben, la gravité que l'on subit sur Terre a une certaine intensité. Si maintenant je comprimais la Terre un peu plus, eh bien je serais plus sensible à cette gravité, parce que je serais plus près du centre de la Terre. Si je la comprimais au point où elle atteindrait 1 cm, bon, c'est une petite taille, mais quand même qui reste visible, macroscopique, à ce moment-là, eh bien, il faudrait une énergie infinie pour m'en extirper, ou dit autrement, la vitesse qu'il faudrait pour quitter la surface de la Terre, qui est de l'ordre de 11 km par seconde lorsqu'on est sur la Terre telle qu'on la connaît, deviendrait la vitesse de la lumière.
Donc noir veut dire qu'il n'émet pas de lumière.
Voilà. Voulait dire qu'il n'émet pas de lumière jusqu'à un certain temps. C'est ça qui est assez paradoxal, c'est que si on prolonge le paradoxe du yin-yang, on peut se dire, mais alors attendez, il ne peut pas y avoir plus yin, plus noir que le trou noir, donc il va devenir yang. Et oui, on pense aujourd'hui que les sources les plus intenses de lumière, les quasars, ont en leur cœur un trou noir qui produit une quantité prodigieuse de lumière. Pourquoi ? Parce que la matière, lorsqu'elle tombe dans le trou noir, elle chauffe et elle brille et elle rayonne de la lumière. Mieux encore, les travaux de John Wheeler, puis Jacob Bekenstein et Stephen Hawking ont montré qu'il est tout à fait possible qu'un trou noir soit une source de rayonnement à sa surface.
Donc ils ont renigré les trous noirs.
Et donc les trous noirs deviennent de nouveau des sources de lumière, et mieux encore, le titre de l'article de Stephen Hawking, dans les début des années 70, c'est que les trous noirs explosent. Un trou noir, en fin de vie, lorsqu'il est en fin de vie, effectivement, ça peut paraître troublant pour un trou noir, eh bien...
Comme dirait le trou vert.
Exactement, qui sont probablement des créateurs de trous de verre. Un trou noir, mais il faut avoir bu quelques verres pour le comprendre, bien
c'est
entendu,
comme si c'était
ce qu'on a fait ce matin avant de commencer cette émission. Eh bien, j'espère que l'auditeur aussi saura nous rejoindre sur cette pensée. Eh bien, le trou noir, en fin de carrière, lorsqu'il est comprimé, eh bien, il va exploser. Alors pourquoi ? Il faut comprendre la chose suivante. C'est qu'un trou noir n'est pas un objet dense. Un trou noir, c'est un objet qui a une masse contenue dans un certain rayon. Alors la différence peut paraître mathématique, mais un trou noir tel qu'on en voit dans le cœur des galaxies a typiquement la densité de l'eau. C'est-à-dire que la matière tombe vers le centre du trou noir, mais au moment où il viendrait de se former, il serait l'équivalent d'une piscine. On plongerait dans un trou noir sans qu'il ne nous arrive rien du tout. Et les plus gros trous noirs ont la densité de l'air. Pour vous donner un autre exemple, l'air qui est dans cette pièce ici, si... il s'étendait sur tout le système solaire. Le système solaire rempli d'air serait un trou noir. Et vous voyez que ça n'aurait aucun effet sur nous. Si je remplaçais le Soleil, si je le comprimais jusqu'à un rayon de 3 km, eh bien, il ne changerait rien à l'orbite des planètes, ça serait un trou noir. Alors, ce que j'ai voulu dire dans mon livre, quand j'ai parlé des trous noirs, c'est que les trous noirs sont aujourd'hui à la jonction de toutes ces questions qu'on se pose sur la part obscure de l'univers, et on conduit à travers ce rayonnement des trous noirs, à imaginer de nouvelles théories dont on parlera peut-être après. Et ces nouvelles théories pourraient complètement révolutionner, non pas uniquement...
Sur l'objet de la dernière partie de votre livre.
Oui, exactement. Non pas uniquement la science, mais je pense que chacun d'entre nous doit se sentir concerné par ce questionnement auquel on est confronté aujourd'hui, parce que c'est l'humanité tout entière qui est confrontée à cette difficulté d'exprimer. Et c'est la dernière chose que je voudrais dire, quand on parlait tout à l'heure des composantes obscures de l'univers, d'exprimer la raison pour laquelle les choses bougent dans l'univers. L'univers change, on s'en rend compte en l'observant, alors qu'il a l'air d'être éternel. Et c'est bien là la difficulté de la physique, c'est de comprendre le changement dans l'univers. Et le trou noir semble être au cœur de cette problématique.
Alors Vincent Montand, commentant le trou noir des physiciens, vous dites qu'il est le puissant symbole de la dépression.
Ah oui, parce que là, je vois David qui se lance dans une grande entreprise de réhabilitation du trou noir, qui nous excuse presque de racisme envers les trous noirs, qui nous dit que c'est pas dangereux, qu'on peut s'y baigner. Et de fait, je vois bien que Charles Baudelaire, que je cite en exergue de mon passage sur la gravité du trou noir, disait « Là, nous pourrons prendre de longs bains de ténèbres. » Oui, mais nous ne pourrons jamais ressortir de la piscine. Il faut quand même préciser ce petit problème, David. C'est qu'une fois qu'on est rentré dans un trou noir, il est très difficile de trouver la sortie. En fait, on ne peut pas. Et donc, le trou noir, c'est quand même le symbole de quelque chose qui est capable de capturer la matière et même la lumière. C'est-à-dire même le symbole de la liberté, de ce qui est censé défier le temps et traverser pour toujours l'univers. En fait, non, peut être capturé par cet astre. Et c'est pour ça que je crois que, en fait, venant de, il faut bien le voir quand même, cette composante funèbre, sinistre du trou noir, c'est le résultat le plus souvent de la mort d'une étoile. Donc c'est quelque chose qui était là pour illuminer l'univers et puis qui s'est effondré sur soi, jusqu'au point d'en devenir la négation. Et c'est pour ça qu'il me semble que c'est une sorte de dépression cosmique dont le trou noir est le symbole, et qu'on en trouve des préfigurations dans la poésie romantique. J'ai cité Baudelaire, mais on trouverait chez Victor Hugo aussi, dans La Bouche d'ombre, une évocation, il me semble parfaitement pertinente, de cet astre noir, ou Nerval, bien sûr, avec le soleil noir, de mélancolie. Voilà. Et donc, il y a quelque chose de terrible et de funeste dans le trou noir, c'est l'idée de quelque chose d'une telle gravité que finalement il déforme l'espace et le temps, nous n'aurons plus la force de nous relever et même la lumière ne nous parvient pas. Et donc ça, c'est la première force. Alors après, je suis quand même sensible parce que c'est une dialectique parfaitement imaginaire à laquelle David s'est référé, celle du yin et du yang. Et en effet, dans l'imaginaire, toute image est ambivalente. Donc une image ne peut pas être entièrement négative comme ça, elle se retourne forcément. Et le trou noir, c'est aussi une chance de crever l'univers, donc de crever la trame, l'espace et le temps, et de s'en évader. Hein, le poème de Baudelaire, c'est « Anywhere out of the world ». Et on retrouve ça dans la science-fiction, c'est-à-dire le trou noir, et ça vient d'ailleurs de spéculations de physiciens, hein, pourrait être la porte d'entrée pour des passages qui nous permettent d'aller dans, ailleurs dans l'univers, voire dans d'autres univers. Et on retrouve ça dans beaucoup de films de science-fiction, « Le trou noir »,« Contact », tout récemment « Interstellar ». Donc, il y a un imaginaire, parce que le trou noir est une prison sans issue, évidemment, il faut qu'il y ait un passage secret pour en sortir. Alors, ça, c'est une dialectique imaginaire.
Je vais peut-être jouer mon rôle de réhabilitateur de trou noir un peu plus loin, en reprenant cette analogie du Yin-Yang. Vous dites qu'on est dans une prison, quand on est dans un trou noir dont on ne peut pas sortir. Savez-vous qu'aujourd'hui, donc, ce qui définit un trou noir, c'est l'horizon des événements, c'est-à-dire une limite qui fait qu'on ne peut pas voir ce qui se passe au-delà de cet horizon. Savez-vous qu'aujourd'hui, nous tous, le monde dans lequel on vit est entouré d'un horizon des événements, que nous habitons aujourd'hui dans notre univers, dans une région de l'univers qui ne nous permettra jamais de voir ce qui se passe au-delà de 15 milliards d'années-lumière de nous, c'est-à-dire que lorsque...
Donc vous êtes en train de nous dire que nous sommes dans un trou noir.
D'une certaine manière. Alors on peut dire que, on peut débattre de la nature de cette structure qu'on appelle l'univers.
Ça va augmenter la dépression collective.
Alors, je ne sais pas si c'est justement à partir du moment où on accepte cette idée de complémentarité Yin-Yang, on peut se dire que finalement la cause de dépression est peut-être aussi une cause de d'émerveillement face au fait que l'univers tout entier, donc peut partager cette propriété puisque depuis alors on en parlera plus tard, je vends un peu la peau de l'ours, mais le fait qu'on sait que l'univers est en expansion accélérée, ça implique qu'il y a une limite au-delà de laquelle on ne verra rien. Donc nous sommes, dans ce sens, dans l'équivalent d'un trou noir qui fait qu'on ne verra rien au-delà de cette limite.
Alors justement, je voudrais qu'on en vienne au... J'allais dire le cœur
du
sujet.
Mais vous n'êtes pas effrayé par ça, Étienne. Il vient de vous dire qu'au-delà de cette limite, on ne verra rien.
Non, à partir du moment où un trou noir pourrait être une piscine.
Ça ne vous fait pas peur.
Attendez, c'est que le début, puisque cette limite se rapproche de nous. Elle se rapproche de nous.
Oui, mais
et dans un certain futur, elle sera telle que on ne pourra plus voir quoi que ce soit qui se trouvera au-delà de notre groupe de galaxies locales. Et donc, on peut dire, c'est ce que je dis dans mon livre, en quelque sorte, que l'univers perd la mémoire.
Oui, et non seulement ça, mais surtout, ce que vous faites pour l'imaginaire, une limite inéluctable qui se rapproche de nous, au-delà de laquelle on ne verra plus rien, ça a un nom, ça s'appelle la mort. Et je veux dire, c'est l'horizon des événements, c'est quand la mort commence. Comme dit, c'est voilà, on sera tout seul.
Je vais tenter de réégayer les débats en parlant...
C'est peut-être la mort de nos théories aussi.
Non, mais en parlant des deux grands sujets qui préoccupent à la fois les cosmologistes, les astrophysiciens et les physiciens des particules, ces deux sujets sont la matière noire et l'énergie noire.
France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein.
Alors commençons par la matière noire. Quand et comment cette question de matière supplémentaire par rapport à celle que nous connaissons s'est posée ?
Alors, Delbase. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux composantes nouvelles, la matière noire et l'énergie noire, ont été découvertes en étudiant les explosions d'étoiles qui donnent naissance aux trous noirs dont je parlais tout à l'heure, les supernovées. Dans les deux cas, pour des raisons complètement différentes, mais au début des années 30, un jeune physicien suisse, Fritz Zwicky, cherche la cause des rayons cosmiques. Vous savez qu'entre le début et la fin de cette phrase, vous avez été traversé par à peu près 2000 rayons cosmiques, dont une bonne partie viennent d'explosions d'étoiles. Et donc, lorsqu'il a compris ça, et qu'il a compris qu'il y avait à peu près une supernova par siècle dans la Voie lactée, Fritz Zwicky a voulu observer un grand nombre de galaxies dans un amas de galaxies, l'amas de Coma, et il s'est rendu compte que les galaxies bougeaient avec des vitesses de 1 millier de kilomètres par seconde, ce qui fait 4 millions de kilomètres heure, et qu'avec cette vitesse, elle devrait avoir suffisamment d'énergie, comme une fusée qui quitterait la surface de la Terre, pour s'extraire de la gravité exercé par les galaxies qu'il voyait. Il en a déduit qu'il devait exister un supplément de gravité, un supplément de masse, et il a appelé ça de la dunkle materie en allemand, de la matière sombre, qu'on appelle aussi la matière noire aujourd'hui. Les Américains, les Anglais, les anglophones parlent de dark matter. Et donc, c'est là où il a commencé à avoir ça.
C'est donc les années 30.
Les années 30, et pendant 40 ans, on n'en a pas parlé.
Qu'il avait un drôle de caractère. Moi, je suis très content de jamais avoir travaillé avec lui. Il disait que tous ses collègues étaient des crétins sphériques.
Voilà, des crétins
sphériques. Pourquoi sphériques? C'est que leur bêtise était invariante par rotation.
Exactement.
Elle était la même, quelle que soit l'angle
sur lequel on regarde. Je suis obligé de défendre Zwicky. Il faut quand même remarquer qu'il avait raison, que pendant 40 ans, ces crétins sphériques ont refusé de l'écouter. Ils l'ont même privé du temps d'observation pour essayer de prouver ses théories. Donc, Zwicky, c'est quand même la personne qui a découvert le problème de la masse manquante dans l'univers, qui a dit qu'il y aurait des effets de lentilles gravitationnelles, qui est quand même pas non plus rien, n'importe quoi, qui a donc inventé les supernovae, et on a réussi à pas lui donner le prix Nobel. On a même réussi à l'isoler, à l'empêcher de travailler, donc qu'il soit un peu acariâtre. D'un point de vue chronologique, non, ça se discute s'il était acariâtre avant ou après.
Il était dès le départ, bon. Mais il est quand même réhabilité par vos propos, Vincent Bontemps, je pense qu'il sera heureux de les entendre.
Vous savez, quand il est arrivé aux États-Unis, il avait eu la bourse Rockefeller, et son responsable, c'était Robert Millikan, qui a été prix Nobel de physique pour avoir mesuré la masse des électrons par expérience de la goutte d'huile. Et quand il est arrivé là-bas, il y avait tout un remue-ménage autour des déclarations de Millikan qui parlait des rayons cosmiques comme des particules de Dieu. Et ça a particulièrement énervé Zwicky, qui est allé le voir. Il était étudiant, hein. Il est allé lui dire, écoutez, monsieur Millikan, j'ai lu tous vos articles, j'ai écouté toutes vos conférences, il n'y a rien. Et le prix Nobel l'a regardé, il lui a dit, bon, très bien, et vous, jeune homme? Et Zwicky lui a répondu, moi, vous me donnez une question scientifique et j'ai une idée géniale tous les deux ans. Et c'est à ce moment-là, lui qui venait de la physique du solide, que Millikan lui a dit, très bien, bah, expliquez-moi l'origine des rayons cosmiques. Ce faisant, il a effectivement découvert la matière noire, les supernovae, etc. Alors que c'était pas du tout son sujet, en même temps qu'il avait inventé un nouveau type de ski de randonnée pour aller faire du ski sur les collines à côté, etc. Il a d'ailleurs, au passage, épousé Dorothy Vernon Gates, qui était la fille d'un riche député américain, et qui lui a payé la caméra dont il avait besoin pour voir tout ce grand nombre de galaxies. Donc il avait beaucoup de ressources, Fritz Zwicky.
Enfin, bon. Parce qu'on lui avait refusé les autres sources. Mais en plus de ça, il avait raison. Millikan avait totalement tort sur son explication des rayons cosmiques. Il faut se mettre d'accord là-dessus. Et lui, en revanche, était sur la piste de choses réelles. Donc il était totalement arrogant. Mais c'est pas une raison pour empêcher, quand les gens ont raison, leur dire qu'ils ont tort, qu'ils soient arrogants. Une fois de plus, on peut être un grand génie et d'avoir un caractère insupportable. C'est le cas de Newton aussi, hein. Rappelez-vous que Newton est un type impossible qui fait pendre des gens.
Pour nos auditeurs, il faut savoir que Fritz Zwicky a écrit un livre qui disait « Nous sommes tous des génies ». Et donc, ce qu'il voulait dire quand il disait on est que ses collègues étaient des abrutis sphériques, je pense qu'il l'appliquait à lui-même aussi. Il disait que lorsqu'on explore l'inconnu, comme ce dont on parle aujourd'hui, les idées noires de la physique ou la matière noire, la recherche de l'univers invisible, nos deux livres, eh bien, lorsqu'on explore cet inconnu, on a tendance à aller dans certaines directions privilégiées qui sont celles de notre culture, d'une époque, etc. Et il disait que si on dessinait la carte de notre exploration, elle serait complètement biaisée. Et donc il parlait d'une méthode morphologique qui consistait à changer la morphologie de notre exploration de l'inconnu avec des nouvelles méthodes. Il proposait par exemple, et ça je pense que nos auditeurs peuvent le faire, vous prenez une question quelconque à laquelle vous n'avez pas de réponse, vous formulez la question et puis vous prenez tous les concepts qui sont liés à cette question. Par exemple, vous cherchez l'origine des rayons cosmiques. Alors, vous allez imaginer, il faut des particules, il faut de l'énergie, on peut imaginer que dans le ciel il y a des étoiles, il y a des explosions, etc. Puis vous les mettez dans une boîte, il appelle ça la boîte morphologique, et puis vous mélangez les mots, et vous avez comme ça des périphrases, et parmi ces périphrases, eh bien, il y a peut-être la réponse à votre question. Et avec le regard que vous allez porter sur toutes ces idées nouvelles, vous allez pouvoir trouver quelque chose. Et c'est comme ça qu'il a eu toutes ces idées géniales, mais il faut aussi dire que Zwicky pensait que le Big Bang n'avait pas existé, que le photon perdait de l'énergie en cours, qu'on pouvait se déplacer avec le système solaire en envoyant une bombe atomique dans le soleil, et il avait aussi, parmi ces idées, des idées qui étaient très farfelues. Mais je l'adore.
C'est vrai.
On va arrêter là ce débat sur la personnalité. Le caractère des physiciens, parce qu'il y aurait trop de choses à dire. Et il faut revenir à la question posée, qu'est-ce que la matière noire ? Zwicky a utilisé un théorème bien connu des étudiants physiques, qui s'appelle le théorème du viriel. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, élève Elbaz, en quoi il consiste ?
Tout à fait. Le théorème du viriel est un théorème qui simplement dit qu'il existe dans l'univers, lorsqu'on lâche des objets dans l'univers, eh bien lorsqu'ils sont attirés par la gravité, des objets qui sont reliés sous l'effet de la gravité. Alors pour mesurer ça, pour quantifier la possibilité qu'un objet soit autogravitant, c'est-à-dire soudé par la gravité, eh bien on compare la vitesse à laquelle se déplacent ces composantes. Ça peut être des étoiles dans une galaxie, ou ça peut être des galaxies dans une famille de galaxies, dans un amas de galaxies. Et la vitesse à laquelle se déplacent les galaxies est directement liée au puits de gravité qui est exercé par la masse de ces mêmes galaxies. C'est-à-dire que la gravité, c'est comme creuser un puits dans l'espace-temps et la matière tombe dedans. Si vous donnez une vitesse suffisamment grande, la matière sort, et si elle a une vitesse inférieure, elle reste. Et la vitesse à laquelle la Terre tourne autour du Soleil nous permet de déduire la masse du Soleil par exactement le même principe. Et c'est comme ça qu'on mesure la masse des objets dans l'univers. Le théorème du viriel, c'est simplement l'égalité entre le potentiel gravitationnel et la vitesse des objets. C'est une méthode qui permet de déduire du mouvement des astres dans l'univers la masse qu'on ne voit pas.
Alors c'est ce qui amène Zwicky à penser qu'il existe une matière que nous ne voyons pas, qui agit gravitationnellement. sans émettre de lumière.
Exactement.
Mais pendant longtemps, on a pensé que c'était la matière ordinaire, mais froide, donc incapable de rayonner. Or, la donne a changé. On pense aujourd'hui que si cette matière existe, elle est constituée de particules que nous ne connaissons pas.
Tout à fait. Tout à fait. Alors, il y a eu...
Et c'est en ça que ça devient un sujet pour la physique des particules.
Exactement. Il se trouve qu'en parallèle, la physique des particules, pour compléter sa théorie, évoquait l'existence de nouvelles particules et qui, comme on ne les voyait pas, devaient être des particules suffisamment massives pour ne pas avoir encore été détectées. Ce sont des candidats idéaux pour expliquer la matière noire. Et puis, en même temps, lorsqu'on a essayé de rendre compte de la matière noire par de la matière classique, mais qu'on ne verrait pas, on s'est rendu compte que ça ne pouvait pas marcher parce que dans la recette de l'univers, ça ne fonctionne pas. Très tôt dans l'histoire de l'univers, la matière a eu des fusions nucléaires à un rythme qui était défini par la quantité d'atomes qu'il y avait dans l'univers, à la température de l'univers. Et donc, en étudiant cette évolution de l'univers, on sait à peu près qu'il y a 6 fois plus de matière, de masse manquante, que la matière normale. Et donc, il faut bien une matière nouvelle. Ou bien, c'est là que la question se pose, ou bien le théorème du Viriel, qui suppose que les objets sont liés par la gravité et qui s'applique sur des distances qui se mesurent en millions d'années-lumière, eh bien suppose une loi de la gravité qui ne varie pas avec la distance, et peut-être que cette hypothèse est fausse. Donc aujourd'hui, on est confronté à ces deux possibilités.
Soit on dit qu'il y a la matière noire, soit on dit que la loi qui permet de la déduire est fausse.
Exactement.
Mais là, il y a quelque chose que je ne comprends pas, et là je vais m'adresser à l'épistémologue Vincent Bontemps, c'est que beaucoup de personnes sont venues à ce micro nous expliquer que les lois de la gravitation, celles qui sont décrites par la théorie d'Einstein, sont contradictoires avec les lois de la physique quantique, qui sont celles de la physique des particules. Notamment, l'espace-temps n'est pas le même. Il n'est pas le même selon qu'on considère la théorie d'Einstein ou selon qu'on considère la mécanique quantique. Or là, on est dans une situation où la relativité générale, la théorie de l'univers à grande échelle, disons, nous dit qu'il manque des particules.
Oui.
Et donc, la relativité générale parle à la physique quantique avec laquelle, pourtant, elle n'a pas de concept commun.
Oui, on est dans une situation qu'on pourrait dire de bricolage. Parce que le bricolage, c'est quand on combine avec les moyens du bord. Et bon, pour beaucoup d'aspects, les astroparticules vont être dans... Enfin, en tout cas, celles qui sont invoquées, qui sont de la matière exotique, relèvent de ce sort de bricolage. Et on en retrouvera aussi un exemple avec l'énergie noire quand on combine la réflexion cosmologique avec celle sur l'énergie du vide. Parce que c'est aussi deux univers de pensée, cette fois-ci, qui sont normalement pas compatibles. Donc... Il n'y a pas de honte à ça, on bricole quand on peut, mais ça laisse de sérieux doutes épistémologiques, c'est-à-dire que, de fait, dans le problème de la matière noire, on se dit, pour l'instant, on est dans un dilemme entre une solution qui est une solution ontologique, on invente des particules de matière exotique qui ne seraient donc aucune interaction avec les ondes électromagnétiques, mais capables d'interagir à travers la gravité, donc une matière quand même très étrange. Et donc le noir devient assez mystérieux. La matière noire, qui n'existe d'ailleurs qu'en français, résonne tout d'un coup avec des points de vue imaginaires, avec des concepts alchimiques, ceux de matière noire et d'œuvre noire. Et puis, de l'autre côté, on a des solutions qui sont des solutions législatives qui consistent à changer la loi. Donc il y a une théorie qu'évoque d'ailleurs aussi David dans son livre, qui est la théorie Mount, qui tente de modifier les lois, mais même et qui n'est pas qui n'est pas plus vérifié que on trouve pas les particules qu'il faut pour faire la matière noire, hein. Clairement, on est dans une explication de l'obscur par l'obscur, mais de l'autre côté, les Mount ne semblent pas beaucoup plus convaincantes, se heurtent à d'autres problèmes.
L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence.
Exactement. Tout à fait, il faut savoir que entre la prédiction de l'existence du neutron et sa découverte, c'est écoulé 12 ans, entre la prédiction de l'existence du neutrino et sa découverte, c'est écoulé 26 ans. Entre la prédiction de l'existence du boson de Higgs et sa découverte,
ans. Les ondes gravitationnelles sont dedans et l'atome 2500 ans.
Voilà. Et donc, la matière noire, selon qu'on prenne la date de 1930, où on a vu qu'il y avait de la masse manquante, ou les années 80, où on a commencé à imaginer que ça devait être de nouvelles particules,
on a de la marge.
Finalement, eh bien, si on devait extrapoler cette loi qu'on vient de décrire là, on la découvrira peut-être au mieux en 2033. Donc, c'est très difficile. Sous prétexte qu'on n'a pas encore découvert la matière noire, de dire qu'elle n'existe pas. Néanmoins, il faut se préparer à toutes les éventualités. C'est pourquoi, par exemple...
Mais en quantité, c'est 10 fois plus que la matière connue.
C'est à peu près 6 fois plus.
Celle qui est constituée de, quarks et de
C'est ça, les protons, les neutrons, les électrons, les quarks, cette matière.
Et alors, dans votre communauté, quelle est la proportion de physiciens qui sont prêts à envisager un changement de la loi par rapport à celle de ceux qui...
C'est ça, il y a 6 fois plus de gens qui croient en la matière noire que de gens qui croient qu'il faut changer la théorie.
Vous l'avez mesuré?
C'est tout à fait, oui, je le mesure tous les jours. Non, là, je plaisante, mais disons que la grande majorité des scientifiques aujourd'hui... adhère à l'idée de la matière noire. Il y a quand même une raison qui est assez troublante pour moi. Moi, j'adore toutes les nouvelles théories auxquelles je fais référence dans mon livre, qui font rêver d'ailleurs.
Qui nous emmènent très très loin.
Qui vont très loin, hein, même certaines qui disent qu'on vit dans un hologramme. Néanmoins, il faut reconnaître que quand on regarde l'univers primordial, le fond diffus cosmologique, les petits grumeaux qu'on y voit sont de 1/100 millième de variation de densité. Et depuis 13,8 milliards d'années, si on laisse agir la gravité sur ces petites irrégularités, ça ne peut pas faire la moindre galaxie, la moindre étoile. Il faut donc invoquer des puits de gravité dans l'univers primordial qu'on ne voit pas. Et si vous mettez de la matière normale, eh bien la lumière diffuse sur cette matière et la lisse. C'est pour ça qu'il n'y a pas de gros puits gravitationnels. Tandis que la matière noire a cette propriété de pouvoir creuser des grumeaux dans l'univers sans être affecté par tout ce qui se passe autour. Et ces grumeaux, on en a besoin pour former les étoiles et les galaxies.
Alors vous voyez comment fonctionne le raisonnement quand même, et que c'est un point de vue imaginaire, c'est très intéressant.
Moi j'ai compris que si nous sommes un hologramme lui-même situé dans un trou noir, ce studio devient un endroit intéressant.
Non, c'est pas ça qu'il fallait retenir, Étienne. Vous n'avez pas suivi du tout. C'est que... Les mots nous prennent au piège parce que la matière noire a les propriétés, c'est pas du tout ça. C'est parce que on a besoin de ces propriétés, on les met dans la matière noire. Pour l'instant, la matière noire n'est qu'une substantification des propriétés dont on a besoin.
Elle vient d'une projection théorique. Il y a d'abord le sentiment, enfin le constat d'un manque.
Oui, mais on glisse ensuite. À travers l'expression de matière noire, on glisse subrepticement de l'hypothèse vers l'hypostase, de quelque chose que on suppose devoir exister pour expliquer ce qu'il y a et qu'on prend du coup pour une réalité parce que ce qu'il y a existe vraiment.
Or, le noir subit ce que Bachelard appelait des révolutions sémantiques.
Le noir subit de toute façon des révolutions sémantiques, mais l'esprit scientifique subit des effets de substantification dans ce quand il passe dans le langage ordinaire. C'est sur ça, je pense que les physiciens comme David utilisent le bricolage le plus performant tant qu'ils sont là et ont de toute façon une espèce de clause qui est quand on trouvera mieux, on changera. Ils n'ont pas de refus de trouver une nouvelle théorie ou quoi que ce soit. C'est pas des gens qui croient à quelque chose, c'est des gens qui cherchent. C'est tout à fait autre chose. Ils sont dans le noir, ils tâtonnent. Voilà.
Et pour chercher, on
mais
crée,
en revanche, le langage ordinaire nous fait croire à la réalité substantielle des mots que nous utilisons.
C'est-à-dire qu'on doit aujourd'hui effectivement créer aujourd'hui la réalité de demain pour pouvoir définir des modes d'exploration de l'univers qui vont mettre en évidence... C'est très difficile avec les moyens limités qu'on a d'explorer toutes les hypothèses possibles. Donc effectivement, on doit faire certains choix et essayer de les démontrer ou de les invalider. Donc effectivement, au moment où le scientifique devient chercheur, il ne s'appuie plus sur les épaules des géants avec des connaissances bien assuré, il est là en train de créer, au même titre qu'un artiste. Et c'est là où finalement, on parlait tout à l'heure de Yin Yang, toutes sortes de grilles de lecture, que ce soit celle de l'art ou de la culture, etc., va être importante. C'est pour ça d'ailleurs que je parle dans le livre, je reprends l'idée d'illusion narcissique dans mon livre, c'est le fait qu'on peut pas faire abstraction du fait que c'est quand même nous qui regardons l'univers et qu'on parle d'une représentation de l'univers en effet.
Oui. Mais je ne voudrais pas que nous terminions cette émission sans parler du dernier né dans le mode du noir. En physique, il y a l'énergie noire. Alors, qu'est-ce que c'est que l'énergie noire? Depuis quand en parle-t-on, Nabil Elbaz?
Alors, c'est dans les années 90, à la fin des années 90, en 98, où on s'est aperçu que les explosions d'étoiles étaient 30% plus faibles en brillance que ce qu'on pensait à une certaine distance.
Mesurées depuis la Terre.
Mesurées depuis la Terre. Les étoiles, elles sont dans des galaxies. Ça suggère qu'elles sont portées par un courant. Vous savez, les galaxies, c'est comme des bateaux qui voguent sur l'espace-temps, qui s'étend. Eh bien, les supernovae dans ces galaxies vont beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Et donc, on s'est aperçu que l'univers était dans une expansion, ça on le savait, mais qui accélère. Il a d'abord ralenti, et puis il a accéléré, comme si une source d'énergie nouvelle, qu'on ne connaît pas, poussait l'espace à s'étendre de plus en plus. Et là, effectivement... On l'appelle énergie noire parce qu'on ne sait pas quelle est sa nature. Et de nouveau, les physiciens des particules disent « Mais attendez, nous l'attendions. » Parce qu'ils pensent que le vide quantique possède une énergie. Alors, il y a juste un petit hic, c'est que dans la théorie en question, l'énergie du vide est soit infinie, soit 10 puissance 120 fois plus grande que ce qu'on observe. Donc, il va falloir un peu rafistoler quelque part, comme le disait Vincent. Mais néanmoins, il y a...
Est-ce que le vide quantique gravite?
Alors, le vide quantique, non seulement, c'est une très bonne question, puisque, par exemple, même Sakharov lui-même, vous connaissez le savant Sakharov, avait proposé que le vide quantique soit même la source de gravité, dans le sens où vous savez que même le boson de Higgs, c'est l'idée que, finalement, l'espace lui-même est muni, est doté d'un champ qui donne une masse aux particules, et donc, quelque part, il doit y avoir un lien entre cette inertie, cette masse inertielle des particules, et ce qu'on appelle la gravité, c'est quelque chose qu'on cherche encore. Derrière toutes ces questions, il y a toujours la tension entre les deux infinis et la quête d'une théorie du tout. Une quête d'une théorie qui expliquera tout, c'est le retour à l'unité.
Mais alors si je fais le bilan, si on suppose que les lois de gravité que nous connaissons sont les bonnes, la matière ordinaire c'est 4% du contenu de l'univers, la matière noire c'est à peu près 30%, et le reste, donc 66%, c'est de l'énergie noire, c'est bien ça?
Oui, à peu près comme les proportions d'un tronc, des branches et des feuilles d'un arbre. Le tronc, c'est l'énergie noire. Les branches, c'est la matière noire qu'on ne voit pas. Et puis ce qui produit la lumière qu'on voit de loin, ce sont les feuilles. Et c'est ça dont on est fait, nous.
Qu'est-ce que ça vous inspire, Vincent Montand? Cette prolifération de ce qui est noir dans l'univers?
On est dans un régime de substantialisation sauvage et effrénée. Parce que finalement, on a d'autres moyens. J'ai pas de préférence en réalité entre les deux, mais il y a d'autres concepts qui ont été évoqués, qui étaient beaucoup moins substantialistes auparavant. Quand on parlait de constante cosmologique avec Einstein, avec Lemaître, avec d'autres, c'était juste une donnée de la géométrie de l'univers qui était tel qu'il était, et puis ça ne demandait pas de justification. Et donc c'est là où on voit tout le poids métaphysique et imaginaire d'une manipulation des symboles mathématiques qui est pourtant très simple. C'est-à-dire que dans l'équation d'Einstein, finalement, il y a deux membres. Il y en a un membre dont il disait qu'il était en marbre. C'était celui qui décrit la géométrie de l'univers.
La métrique.
Et puis de l'autre côté, il y avait un membre dont il disait qu'il était dans un bois de piètre qualité, et c'était le contenu matériel énergétique de l'univers. Et suivant qu'on met le terme pour obtenir ce qu'on veut, enfin, pour expliquer ce que l'on voit, suivant qu'on le met d'un côté ou de l'autre, il n'a pas du tout la même signification. Tant qu'on le met du côté de la géométrie, c'est une sorte de signature géométrique de comment l'univers est fait. Et c'est un truc très abstrait. Il est d'ailleurs assez difficile de voir quelle est l'ombre projetée dans l'imaginaire. J'ai dû aller chercher dans les métaphysiques néoplatoniciennes pour trouver quelque chose qui y corresponde. Alors que quand on le met du côté matériel et énergétique, alors une boîte de Pandore ontologique s'ouvre et de nouveau, on a une profusion de concepts scientifiques et qui donne au noir une teinte assez inquiétante, une teinte, je disais, de roman noir dans le livre, dans la mesure de série noire, si vous voulez, dans la mesure où on cherche finalement la cause de la mort de l'univers. Parce que l'énergie noire, c'est ce qui va écarteler finalement l'univers jusqu'à ce que chaque chose soit séparée d'une autre par un rayon supérieur à celui d'un univers observable. Et donc, on cherche des coupables et on cherche des monstres aussi, parce qu'on a besoin de concepts qui sont quand même très étranges. Rendez-vous compte que c'est une énergie qui est définie de façon négative, qui est définie comme étant le contraire de la gravité.
Lorsque je vous écoute l'un et l'autre, j'ai l'impression que nous traversons une crise en physique. Est-ce que vous êtes d'accord, David Elbaz? Et à votre avis, comment se passera la sortie de crise?
Oui,
par une refonte de la gravitation?
Pour moi, alors l'image que je donne dans le livre, c'est effectivement un avion qui traverse des nuages et puis qui va arriver à un moment donné où il aura une vision complètement nouvelle. Pour moi, c'est ce dont on parle ici, cette crise-là, est la véritable motivation au quotidien pour moi de mon travail de chercheur. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec tout le monde. Je pense que chacun doit savoir aujourd'hui, en nous écoutant, que demain, il est possible qu'une découverte extraordinaire se fasse, que ce soit dans l'observation de l'univers, que ce soit dans la théorie, dans les calculs, soit au LHC, dans les accélérateurs de particules. Et il est difficile de savoir ce qui va en sortir, mais si je devais faire un pari, je serais prêt à parier que nous allons revoir notre compréhension de la gravité. Oui.
Donc on vous réinvitera bientôt, David Elbaz. Et je laisse cette phrase à méditer pour nos auditeurs. C'est une phrase d'Henry Ford à propos de la Ford T, cette voiture qui sortait en grand nombre de ses usines. Il disait aux éventuels acheteurs « Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez à condition que ce soit le noir ». C'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Thibaut Germez et à la réalisation François Connac. I know. tellement tout de suite que c'est presque comme si c'était déjà maintenant, vous retrouverez Antoine Guillot pour Plan Large, le nouveau rendez-vous cinéma de France Culture.